Salut à tous, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, radio sans Dieu ni maître ni publicité, et ce soir c'est Jeudi Noir, comme tous les deuxième et quatrième jeudis du mois, avec Michel, José et moi-même.
Jean-Mathias.
Voilà, on vous parle ce soir d'un livre d'Alfred Döblin, édité aux excellentes éditions Agone. Il n'y a pas très longtemps, là, cet hiver, en fait, hein, 2013. Ce livre s'appelle « L'art n'est pas libre, il agit », écrit sur la littérature, écrit, regroupé sur une période de 1913 à 1948. Donc c'est un recueil d'articles, en fait.
Et de conférences.
Et de conférences, voilà, écrit par Döblin sur les rapports entre voilà, la littérature, la politique, la vérité, la science, ce genre de questions-là. Et donc sur une période relativement large. Alors ça nous a paru intéressant, bah déjà parce que le propos est intéressant, hein, Michel va nous en parler plus précisément là tout au cours de l'émission. Le propos est intéressant et puis c'est un auteur qui est pas toujours très connu, Döblin, même si c'est un des grands romanciers allemands de l'entre-deux-guerres. Donc bah voilà, à ce double titre, on a été très très intéressé par ce livre là de Döblin, L'art n'est pas libre, il agit, aux éditions Agone. Alors, peut-être tu voulais dire deux mots sur ce qu'on a écouté d'abord, Michel.
Donc c'est un morceau très court de 30 secondes, produit, enfin, réalisé par Jade et Nao, donc Jade Fer et Naofumi Ishimaru. Il s'intitule A. Donc c'est du début des années 90, c'est de la musique expérimentale. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pouvait écouter à l'époque, dans notre folle jeunesse.
Voilà. Alors, donc maintenant, Döblin, alors est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer par présenter un peu l'auteur, quoi, Döblin, qui est donc un...
Alors, avant de présenter l'auteur, je voudrais présenter le traducteur, ouais. Parce que donc, c'est Michel Van Oostwijs, et il a écrit quelques années plus tôt, toujours chez Agone, un roman qui s'intitule « Fascisme et littérature
c'est
pure ».
C'est un essai, ouais.
Un essai, oui.
Ouais.
« La fabrique d'Ernst Jünger », ouais, qui est très intéressant et qui a des liens, on le verra avec Döblin. C'est un livre où il critique finalement où il montre toute l'implication idéologique des écrits de Jünger, donc écrivain allemand qui était récemment publié à la Pléiade et qui était notoirement d'extrême droite et qui dans les années 30 était, enfin 20 plutôt, était nettement plus pressenti que le petit Adolf pour prendre les commandes de l'État allemand et restaurer l'ordre à grands coups de trique. Les autorités littéraires françaises vénèrent Jünger parce qu'il a du style, vous comprenez. Mmh. Et on y reviendra un petit peu, mais Michel Van Oostwijs a aussi écrit ça. Donc Fascisme et littérature pure, La fabrique d'Ernst Jünger, collection bande d'essais donc chez Agone. Et si ce genre de choses vous intéresse, je vous en recommande la lecture, c'est un très bon bouquin. Voilà, donc quant à Döblin, je crois qu'il est peu connu en France. La plupart du temps, les gens disent Berlin Alexanderplatz. Je pense que peu l'ont lu. Moi, je l'ai pas lu, par exemple. Donc, mais il semble. Enfin, je crois que c'est
un roman de 28, 29, c'est ça.
C'est un roman de 28, ouais. qui est massif, qui a été traduit en français, qu'on peut trouver, et qui est, comment dire, qui est un des seuls trucs vraiment qui a rendu Döblin célèbre en France. Alors que administrativement, Döblin était français. Et donc. Donc, alors Dublin, donc, je vais vous dire quelques mots sur lui. Bon, il est né en 1878 en Allemagne, il est mort en 1957 en Allemagne aussi, mais il a été enterré en France. Bon, on verra pourquoi, vite fait. Alors, il est allemand jusqu'en 36, et là il devient français parce qu'il était aussi juif, au moins jusqu'en 41, et là il est devenu catholique. Et il était neurologue jusqu'en 1930, où là il est devenu écrivain à plein temps. Voilà, donc c'est quelqu'un, on pourrait le qualifier voilà, allemand, juif, neurologue, ou alors français, catholique, écrivain, à vous de voir. Mais bon, il est nettement plus ancré finalement dans la réalité allemande de cette époque-là qu'autre chose. Hein. Mais du fait des vicissitudes de l'histoire, bah, il a dû... et de son histoire personnelle propre, bah, il a aussi pas mal évolué, pas mal bougé. Alors, deux, trois choses sur sa vie, ça va être assez rapide, hein, mais c'est il est médecin militaire pendant la Première Guerre mondiale, et c'est pendant ce temps-là qu'il va écrire son premier roman, Wallenstein, qui parle de la guerre de 30 ans, après la réforme en Allemagne. Donc, il publie ça en 1920, mais il était déjà actif littérairement depuis les années 10. Où il s'était lié, c'est pas son premier roman, Wallenstein, en fait, j'ai des bêtises. Il y en a eu un autre avant. Parce qu'il s'était lié à l'expressionnisme aux alentours de 1910, et il a rompu avec eux en 1915, après avoir publié ce qu'il appelle son roman chinois, qui est centré autour d'un personnage chinois.
Bon. Oui, il collabore à la revue Der Sturm, hein, c'est ça la revue.
C'est ça, Der Sturm, la tempête.
Ouais.
Ouais. Donc la revue
avant la Première Guerre mondiale.
Ouais. Donc avec Kokoschka, le peintre, et quelques autres, que j'ai oublié. Donc il était relativement lié avec eux, mais. En 1915, il a publié son premier roman et ils ont vu que, d'un point de vue esthétique, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ils sont restés amis, mais par contre, ils ont arrêté de travailler ensemble. Alors, il a aussi été témoin de la révolution à Berlin en 19, hein, ce qui donnera beaucoup plus tard lieu à son roman qui s'intitule Novembre 1918, qui a été publié avait été publié en 4 volumes et qu'on peut trouver encore chez Agon parce qu'il a été traduit. Assez récemment, enfin ces 10 dernières années. Donc ça se termine par quelque chose sur Rosa sur Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Ouais. Donc j'en ai lu des morceaux, j'ai pas lu en entier, c'est assez puissant comme œuvre et assez intéressant, c'est pas facile à lire mais on a affaire à quelqu'un qui a un vrai souffle littéraire. À ce moment-là, politiquement dans les années 20, il est plutôt à la gauche du SPD. Les socialistes, c'est-à-dire qu'il va être très très proche en réalité assez vite des communistes. Il n'est pas du tout libertaire, je pense. Après tout ce que j'ai pu lire de lui et autour de lui, bon, c'est pas sa sensibilité. Ensuite, en 33, donc comme vous le savez, une date assez funeste en Allemagne, Hitler arrive au pouvoir, le Reichstag est incendié. Et Dublin, qui est du nez, s'exile aussitôt. Il n'est pas fou. Et donc il va partir avec toute sa famille, d'abord en Suisse, puis en France. Ensuite, en 36, il prend la nationalité française. Et en 39, alors c'est assez amusant, je trouve, il entre au ministère de la propagande. Voilà, je pense qu'il était totalement décidé à lutter contre les nazis. En 36, il avait participé au congrès pour la défense des intellectuels à Paris, auquel un autre écrivain autrichien que j'aime bien, Musil, avait aussi participé, qui était en réalité organisé par les communistes de l'époque. Donc bon, c'est quelqu'un qui, je pense, était totalement engagé dans la lutte, au moins à son niveau, dans la lutte contre les nazis. Donc bon, voilà. À faire, il entre au ministère de la propagande et après la débâcle, alors ça aussi j'ai trouvé ça intéressant parce que ce serait il faudrait savoir sur quel bateau il était, mais comme beaucoup d'intellectuels et d'artistes de l'époque, il va fuir pour les USA à partir de Marseille. Je sais pas si vous le savez, peut-être mieux que moi d'ailleurs, mais vous avez André Breton, vous avez Claude Lévi-Strauss, Trotsky, vous en avez plein qui vont suivre ce canal, qui peut-être n'était pas organisé par des anards celui-là. Le canal.
Ça, je saurais pas te dire.
Ce sera vérifié. Mais en tout cas, bon, vous avez beaucoup de gens. Il y avait une filière, filière marseillaise. Et vous avez beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de philosophes, de tout un tas de gens qui, parfois juifs, parfois pas, ont fui par ce canal-là et se sont retrouvés à partir de là aux États-Unis. Donc il va être brièvement scénariste à Hollywood. Très, très brièvement. Moins d'un an, un peu de choses près. Après, je pense qu'il continue à écrire, je ne sais pas trop ce qu'il fait. En 1945, il revient très très tôt. par rapport à d'autres intellos. Il est en octobre 45, il est de nouveau en France, enfin pas tout à fait en France, il va travailler pour la France dans les zones occupées en Allemagne. Finalement, voilà, et de nouveau, il va occuper une place intéressante pour un auteur. Il est censeur pour l'administration militaire française et il s'occupe d'un journal qui sera publié un peu plus tard.
Et c'est intéressant parce que, pour le coup, dans le livre dont on parle, L'art n'est pas libre, il agit, il y a déjà des prises de position en faveur de la censure. Alors on va voir sur quelle base, parce que c'est assez surprenant, mais un peu paradoxal, voilà, mais il défend l'existence d'une censure. Bon, on reviendra dessus.
Parce que pour lui, c'est une manière de prendre l'art au sérieux.
Exactement.
On y reviendra, parce qu'autrement, c'est irresponsable. Voilà. Machin dit ce qu'il veut dans son coin, parce que de toute façon, il est inoffensif. Donc il va travailler là-dessus, il va former aussi un petit cercle littéraire auquel participera Günter Grass. Qui reconnaît, je crois, comme un de ses maîtres. Voilà, il y a aussi Brecht, qui
visiblement était très très impressionné
et qui se revendiquait de l'inspiration, qui se revendiquait de Dublin en partie,
et à la fois visiblement de ses écrits littéraires et de ses écrits justement un petit peu programmatiques et théoriques qui sont donc regroupés dans le recueil dont on parle ce soir.
Voilà, donc l'art n'est pas libre, il agit chez Agon. Assez déçu par la reconstruction allemande et la direction qu'elle prend, très anticommuniste, peut-être, et puis il n'y avait pas que ça, je pense qu'il y a aussi pas mal de nazis qui ont été recyclés. Il va se rapprocher un petit peu de la RDA, il va même enseigner là-bas, et très très vite il va se lasser du dogmatisme socialiste ou stalinien de la RDA et partir. Ensuite, c'est quelqu'un qui a surtout beaucoup écrit. Hein. Il va retourner en France à partir de 53, et là, sa santé se dégrade beaucoup. Donc, il n'arrête pas de faire des allers-retours. Sa santé et sa situation économique aussi se dégrade. Donc, il n'arrête pas de faire des allers-retours entre la France et l'Allemagne pour des séjours de plus en plus fréquents et de plus en plus longs dans différents hôpitaux. Il finit par mourir en 57. Et pour la petite histoire, sa femme ça va suicider 3 mois après qu'il soit mort. Et ils seront enterrés tous les deux, quelque part dans les Vosges en France, aux côtés de leur fils, qui était lui aussi naturalisé français, qui s'était engagé dans l'armée française et qui s'était suicidé en 39 plutôt que d'être capturé par l'armée allemande. Et donc ils ont voulu être enterrés à ses côtés en France. Alors qu'il était mort en se battant contre l'Allemagne nazie. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'était une volonté expresse des deux Dublin. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans, enfin très fort en termes... en termes d'investissement idéologique, en tout cas.
Et donc, en fait, l'idée, c'est que c'est pas un militant ou un écrivain politique, au sens propre. Après, il a des engagements qui... Enfin, il a des convictions politiques, il s'en cache pas, et elles sont publiques. Hein, on peut dire ça comme ça.
Oui, dans les années 20, il se disait rouge jusqu'à l'ultraviolet.
Jusqu'à l'ultraviolet. Et donc, en ce sens-là, il est quand même intéressant, dans la mesure où ça a l'air d'être une référence, quand même, y compris du monde littéraire allemand de l'entre-deux-guerres. Parce qu'il est aussi en rapport avec Thomas Mann, avec des gens comme ça. Donc, Thomas Mann, Brecht, Günter Grass pour après. Donc, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est vraiment une des références du monde littéraire allemand. Et alors, tu dis, effectivement, situe plutôt à la gauche, c'est un social-démocrate de très à gauche, on pourrait dire comme ça. Il y a une tradition allemande un peu de ce côté-là.
Oui, du côté léniniste, peut-être, tu penses ?
Je ne sais pas si c'est léniniste, c'est pas évident, mais tu as toute cette gauche-là, alors effectivement, avec des proximités communistes, là, dans son cas. Et il y a un engagement, mais on va en parler... On va en parler après la pause musicale, mais donc il y a des engagements vraiment intéressants sur la question du réalisme en littérature et la question de en quoi la littérature peut être une connaissance de la réalité. Et en quoi, du coup, aussi, ça a des implications précisément politiques, ça. Et tout ça est développé donc dans ce recueil, hein, dans L'art n'est pas libre, il agit. Mais donc, on va peut-être faire une première pause musicale, et puis on reviendra après, dans le détail après ça.
Yeah,
Salut, vous êtes toujours sur Radio Liberté à 89.4, hein, la radio de la Fédération anarchiste, hein, sans Dieu ni maître ni publicité. On vient d'écouter Don Quixote, groupe ouais. californien, hein, comme son nom l'indique. Voilà, donc ce soir on vous parle d'un recueil de textes d'Alfred Döblin, romancier allemand de l'entre-deux-guerres, qui s'appelle L'art n'est pas libre, il agit. Ça a été édité donc chez Agon là très récemment, là, cet hiver. Et c'est donc un ensemble d'articles, de conférences sur la littérature. Et qui couvrent une période relativement longue, puisque ce sont des textes qui vont de 1913 à 1948. Donc on vous a parlé dans un premier temps un petit peu de Döblin lui-même, qui est pas très connu en France, mais qui est une des références de la littérature allemande de l'entre-deux-guerres, et puis qui est voilà, donc on a parlé de ça un petit peu. Je voudrais peut-être maintenant avec toi Michel là qu'on rentre un peu dans le fond du texte là, pour essayer de voir d'abord dans un premier temps comment il envisage, parce que c'est un des intérêts, il me semble, des articles, comment il envisage les rapports entre la littérature et la politique. Parce que c'est un des axes, hein, il me semble. Alors, d'où le titre.
Ouais. Ouais. Un des trucs qui a fait son intérêt pour moi, c'est que je ne suis pas un lecteur de Döblin par ailleurs, mais bon, je me suis un peu intéressé à ces questions du roman, à cause d'un autre auteur, Robert Musil, l'auteur immortel de L'homme sans qualité, que je vous enjoins tous de lire, c'est facile, c'est court, pas de soucis.
Ça fait 3000 pages.
Voilà, et donc, ce qui m'a semblé aussi intéressant en lisant un petit peu Döblin, c'est la résonance que ça pouvait avoir par rapport à certains enjeux contemporains à l'égard de la littérature et de la position politique de l'auteur, finalement, et de ce qu'on peut en déduire, en faire.
Alors qu'est-ce qu'il vise au fond? Parce que c'est il y a une dimension polémique aussi.
Alors je sais pas trop qui il vise. Moi je sais qui je vise, mais lui je sais pas trop, parce que je suis pas au fait des débats, des débats qui étaient propres à la scène littéraire allemande de l'entre-deux-guerres. Alors je pense qu'il vise un peu Thomas Mann, il y a de fortes chances. Est-ce qu'il vise Junger? Je crois pas non plus. Peut-être si aussi un peu quand même. Non, faut voir. Mais moi je vise Junger en tout cas. Bon, parce que quand même cet enfoiré, il a été publié dans la Pléiade. Voilà, bon, parce qu'il a du style, parce qu'il écrit bien, parce que ceci, parce que cela.
Junger, on rappelle, donc il commence avec Les Orages d'acier, qui est une espèce d'éloge de la guerre en tant que telle, à partir de
et des commandos de choc,
et des commandos de choc allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, c'est quelqu'un qui, alors ça, c'est dans le bouquin effectivement de Van Oostwijk qui présente très bien ça. C'est quelqu'un qui est resté, qui est en fait un ultra conservateur d'extrême droite, il faut dire, en Allemagne, donc qui est pas au parti nazi, mais qui va ouvertement. Et,
voilà. Non, mais je crois que c'est un des leaders des casques de fer ou quelque chose
comme
ça.
Ouais, enfin, c'est la filière aristocratique, ultra réactionnaire en Allemagne, et qui sur lesquels Hitler va s'appuyer gaillardement pour accéder au pouvoir. Et effectivement, Junger est une espèce de monument, notamment en France, mais notamment en Allemagne, hein, où effectivement, comme tu l'as dit, il est édité dans la Pléiade. Et surtout, lui, il défend une conception de la littérature qui est. Alors, le paradoxe, c'est qu'il est à la fois très politique, il s'est engagé publiquement, sans cacher auprès de personne, et en même temps, il défend une conception de la littérature qui est extrêmement la littérature pure, quoi. Mmh. Hein, donc, on est vraiment la littérature, finalement, elle n'a très peu de rapport avec le réel, et finalement, l'écrivain peut dire ce qu'il veut parce que la littérature est pure poésie, pure imaginaire, pure forme. Pure forme d'écriture. Et il y a quand même quelque chose, c'est quand même une charge contre ça là, qu'on trouve chez Döblin.
À fond. Ouais. Mais alors, actuellement en France, il y a quand même aussi une espèce de sacralisation de l'art dans un monde plus ou moins laïque qui est intéressante. Et je pense que Döblin, en gros, déjà il y a 80 ans, l'attaque de plein fouet. Et au sens où, en gros, l'art est sacré. Donc l'artiste peut dire exactement ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, pas comme il le veut. Il a intérêt d'avoir du
soit joli.
Il faut que ce soit joli. À partir du moment où il arrive à faire reconnaître qu'il a un style, l'artiste est intouchable au sens du sacré. Et on ne peut rien lui interdire, mais pire encore peut-être, parce qu'à la limite, on pourrait argoter sur l'interdiction, mais surtout on ne peut rien lui reprocher. Parce qu'il se trouve au-dessus des contingences matérielles, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver face à des gens qui vous diront... D'accord, Junger était d'extrême droite. D'accord, pendant les deux guerres,
c'est un militariste.
Il était militariste. Pendant les deux guerres, il était engagé. Il a participé à l'occupation de Paris. Il a participé au massacre dans les tranchées gaillardement. Il en était fier et il pensait qu'il avait vécu une expérience les plus exaltantes de sa vie. Et puis en plus, il en a fait un roman.
Mais quel style !
Mais quel style !
Mais quel style !
Mais quel style ! Quand même, cet homme écrit bien. Et alors, c'est des thèmes qu'on retrouve assez souvent dans cette époque-là. Orwell développe aussi un thème sur les responsabilités de l'artiste dans les années 30, au sujet de Dali. Vous avez deux, trois bricoles comme ça aussi chez Krauss.
Qui était un grand admirateur de Franco.
Qui était Krauss.
Dali,
qui est,
Dali,
qui
est, hein.
Ah oui, aussi.
Ah, Dali, oui.
Krauss, donc, était un journaliste autrichien qui est l'inventeur, on pourrait dire, de la critique des médias de masse, sur un mode un peu ambigu. Bon, c'est Krauss, c'est sympa à lire aussi. Vous pouvez lire La Troisième Nuit de Walpurgis, qui est une espèce d'analyse du phénomène nazi en Allemagne à ce moment-là, et qui est assez lucide, mais qui avait aussi des positions très très réactionnaires par ailleurs.
Oui, enfin c'est un... Bon,
mais bon,
il y aurait 4 émissions, 5,
oui.
10, 20 émissions à faire sur Krauss.
Sur Krauss, oui.
Qui a quand même été l'unique auteur d'une revue qui s'appelle Die Fackel.
Oui, la Torche.
La Torche, et qui est une revue qui a été éditée pendant près de 20 ans, si je me souviens bien. Hein. C'est considérable. Il a rédigé un nombre de pages absolument
il doit arrêter de rédiger à partir de l'Anschluss,
bon,
peut-être.
C'est extraordinaire, et c'est effectivement une espèce de critique en règle des médias autrichiens de l'époque, avec déjà... beaucoup de choses en germe qu'on trouve dans les critiques des médias contemporaines. Mais effectivement, il a un côté Krauss.
Et Dublin il situe dans cette optique-là, d'une certaine manière, c'est qu'il faut arrêter de sacraliser l'art et l'artiste. L'artiste n'est pas intouchable, c'est un citoyen comme les autres, et qui doit en fait répondre de ses écrits. Alors l'idée est assez paradoxale, parce qu'il va dire d'une certaine manière, nous artistes, nous romanciers, on veut être des citoyens comme les autres, et donc oui, allez-y, condamnez-nous pour ce qu'on écrit.
Alors, d'où sa défense de la censure.
D'où sa défense, alors après, on peut comprendre qu'il ait exercé de la censure sans trop de scrupules, mais derrière il y a une autre idée qui la rend beaucoup plus intéressante, parce qu'à la limite ça ce serait une position réactionnaire classique, sans grand intérêt. C'est que son idée c'est que dire ceux qui appellent à la liberté de l'art, ce qu'ils appellent la liberté de l'art, ça veut dire quoi pour Dublin? C'est qu'en fait, c'est des écrivains, et là il y a une analyse sociologique qui, à mon avis, est assez intéressante. Ce sont des écrivains qui, en fait, sont déjà inféodés aux classes dominantes en place, et qui, sous prétexte de revendiquer la liberté de l'art, un art qui, a priori, dans le contenu, n'a absolument aucun impact sur le monde réel. Ils vont vous parler des agriculteurs dans une Allemagne industrialisée, voire des bœufs et tout un tas de choses comme ça. Et donc, leur littérature est
parfaitement
inoffensive. Voilà. Il n'y a aucun.
Mais libre.
Mais libre. Aucun potentiel critique. Mais finalement, dans ce cas-là, on peut être libre. Et Dublin dit oui, c'est la liberté de ce qu'ils appelaient l'article 51. En gros, c'est l'article de. C'est la liberté de l'irresponsabilité pénale. Vous êtes des idiots, vous menacez personne, et effectivement, vous êtes libre. Comme l'idiot peut dire tout ce qu'il veut, sans qu'on aille lui reprocher de prétendre qu'il est le roi, ou que le roi a une plume dans le cul, ou je sais pas quoi. C'est un idiot, on le sait, il n'y a pas de souci. On ne peut pas lui reprocher d'avoir dit ça.
Au fond, l'idée, c'était effectivement la liberté de création et d'écriture qui est revendiquée, elle galvaude parfaitement, en fait, le potentiel subversif qu'il y a dans l'écriture et dans la liberté tout court, en fait. C'est ça qui leur reproche, me semble-t-il.
C'est de réclamer une liberté pour justement faire de l'art formel, qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec la réalité sociale de son temps.
Mais cette liberté, c'est un pur conformisme social.
C'est ça. Et cette liberté, c'est un pur conformisme social. Et Dublin va assez loin dans l'analyse, parce qu'il prend, il analyse aussi le lectorat, c'est-à-dire qui lit ces gens-là, qui les édite, à partir de quoi s'inspirent-ils, etc. Et comment sont-ils avec les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que c'est pas du tout une analyse littéraire, entre guillemets, pure, pour le coup. La littérature pure doit être analysée de façon impure, en voyant tous les liens qu'elle a avec les pouvoirs en place, avec les éditeurs, avec le journalisme, avec tout un tas de choses, qui fait qu'en fait c'est une littérature qui réclame sa liberté parce qu'elle sait très très bien qu'on lui accordera, étant donné qu'elle est inoffensive. Et de ce point de vue-là, Dublin va retourner les choses et va dire soyons des écrivains responsables, c'est-à-dire exigeons finalement qu'on puisse nous demander des comptes sur ce qu'on a écrit. Mais ce qui ajoute, c'est que dans le système littéraire, finalement, celui qui viendrait d'un milieu social, populaire et qui écrirait de façon un peu critique, quand il se heurte à l'idée que, enfin, quand son œuvre, imaginez cet auteur populaire critique, se heurte à la domination d'une littérature pure qui n'a aucun impact en matière politique, finalement, son œuvre est reçue comme quelque chose qui n'est pas artistique. C'est-à-dire que cette stratégie de la littérature pure, soi-disant apolitique, qui dans les faits est en collusion avec l'establishment, avec le pouvoir, bon, c'est des Jungers, c'est des gens comme ça, qui sont tous de bons bourgeois bien installés, qui peuvent avoir des responsabilités militaires, qui trouvent toujours à éditer leurs bouquins, qui même peuvent paraître, comment dire, publiés dans la presse sans trop de soucis. Bon, ben, ces gens-là, finalement, en occupant le pavé, en produisant leur littérature inoffensive, et en faisant valoriser, comment dire, en valorisant leur place sociale auprès des puissants, ben ils empêchent aussi finalement la reconnaissance en tant qu'œuvre artistique des œuvres qui oui, seront plus engagées.
C'est eux qui définissent les normes et les critères du littéraire.
Oui.
Et au fond, c'est effectivement une manière d'interdire une littérature qui, elle, prendrait en fait se prendrait pas au sérieux, mais prendrait la littérature au sérieux.
Exactement.
Et l'écriture littéraire au sérieux.
Et prendrait aussi l'engagement de l'écrivain dans le réel plus au sérieux. Alors, bon, Junger prenait son engagement dans le réel très très au sérieux.
Il était assez conséquent.
Il était assez conséquent de ce point de vue-là, bon, mais... Et donc c'est pour ça que Dublin va en arriver finalement à dire « Bah oui, censurez-nous, allez-y, mais en gros, vous nous reconnaîtrez. » Donc de ce point de vue-là, son point de vue, comme il le dit, c'est... il ne cherche pas à savoir s'il y a des œuvres littéraires qui sont politiquement orientées, qui sont aussi des œuvres d'art. Il n'y a pas de souci, il y en a. Et il cite alors un truc que je connais pas, la bataille d'Arminius de Kleist. Alors j'ai lu des choses de Kleist, mais pas ça, qui est de toute évidence une pièce anti-napoléonienne. Kleist l'a écrit quand la Prusse était occupée par les armées napoléoniennes. Mais il cite aussi la Divine Comédie de Dante, dont j'ai lu quelques morceaux. Et si vous lisez la Divine Comédie, vous verrez qu'effectivement en enfer on trouve des papes, on trouve des, comment dire, différentes factions politiques italiennes de l'époque.
D'où le proverbe, l'enfer est pavé de papes.
Et voilà, c'est connu. Et on marche dessus en enfer. Ce qui est toujours agréable, c'est toujours agréable de marcher sur un pape. Donc je vous recommande d'aller en enfer. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal si vous écoutez cette radio. Ensuite, voilà, il dit, voilà, la Divine Comédie, elle est elle aussi une œuvre politique orientée, mais son caractère d'œuvre d'art est lisible avec certitude à des signes déterminés, bon, qu'il n'indique pas, mais bon, on va pas contester la Divine Comédie d'être une œuvre d'art, ce serait un peu fort de café. Donc il dit, oui, ça, il n'y a pas de problème, une œuvre d'art peut être engagée politiquement, être aussi une œuvre d'art. Ensuite, il ajoute dans certains textes, c'est pas parce que, comment dire, on ne peut pas nous demander non plus de systématiquement faire de la politique en tant que romancier.
Ce qui est important là, aussi, oui. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a aussi tout le mouvement, en Allemagne, mais oui. Pas seulement, hein, les auteurs et les romanciers communistes, ils sont payés pour le savoir. Il y a l'idée qu'effectivement, c'est les littératures engagées. Hein, il y a tout ce mouvement de romanciers qui, pour le coup, sont déjà à l'époque pratiquement à la botte de l'Union soviétique. Hein, il y en
oui.
a quand même,
Julien Binda, je ne sais pas si la botte de l'Union soviétique à ce moment-là, lui. Enfin, bon, mais vous avez l'unanimisme aussi, vous avez tout un tas de choses qui sont...
quand même une bonne partie de
Aragon,
notamment, etc. Mais, et donc effectivement, lui, il n'est pas là-dessus. Hein,
pas du tout.
C'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à la fois, il prône une responsabilité politique de l'écrivain et de la littérature, et en même temps, c'est pas un godillot, quoi. C'est pas un idiot utile, pour le coup.
Oui,
pour reprendre les formules de Staline, là, sur les écrivains qui font joli, quoi.
Non, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il dit, voilà, ce que ça pourrait paraître... il a écrit quelque chose qui s'appelle « Contre la littérature de parti ». Donc je vous en lis un passage. « On proteste contre cette littérature accusée de se tenir à l'écart et contre son incapacité à déployer un drapeau. On désire de la littérature, et de celle-ci plus que tout, en ce temps plus que tout, qu'elle produise des œuvres qui ne soient pas seulement esthétiques et psychologiques, mais aussi, non, avant tout, politiques et sociales. C'est la vieille exigence de la politique et de la société, leur vieille revendication dominatrice et vide là. » Alors, un dernier paragraphe, vous verrez son idée. « Écoutez l'artiste et l'écrivain ainsi poussé dans le retranchement. Nous produisons et faisons ce que nous pouvons. Si vous voyez un arbre qui porte des pommes et des poires, cela vous suffit-il ou non? Cela ne vous suffit pas. Vous réclamez que l'arbre donne de la viande de bœuf. Il ne le peut. » Donc, son idée, c'est que, finalement, l'artiste, effectivement, doit être responsable de ce qu'il dit. C'est pas pour autant qu'il doit être soumis à un parti.
Ouais, c'est ni littérature pure et art désintéressé, ni littérature de parti, voilà, au service du parti, justement.
Voilà, au service du parti.
Je vous aime, rappelez-le.
Il dit, voilà, on exige des romans, des effets pratiques, politiques et sociaux immédiatement visibles. Nous ne pouvons pas les donner.
C'est pas une littérature de propagande.
Non, l'art ne produit pas de pain, pas même pour l'artiste, je le dis entre parenthèses, quand celui-ci vient à manquer. Mais il forme et enrichit votre moi. Nous travaillons à longue portée. C'est justement l'éloignement de la pratique qui est notre manière. Nous donnons bien plus que vous ne réclamez. On laisse l'homme et le monde dans leur entier.
éloignement de la pratique, mais pas éloignement de la réalité sociale.
Exactement. Voilà. C'est, ce sont deux choses très très différentes. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de, effectivement, de n'écrire que des romans qui vont soulever le, comment dire, l'âme des masses populaires et leur faire prendre conscience de la lutte des classes.
Oural, oural.
il s'agit d'écrire, entre guillemets, dans son temps. Et puis de, comment dire, de pas prétendre être en dehors de tout, sous prétexte qu'on a un joli style. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce que, mine de rien, ce qu'il développe dans son truc...
De quelle année il est, cet article-là?
De cet article-là, L'Arbre n'est pas libre, il agit, il est de 29.
29,
c'est pas rien.
C'est une période, oui, dans laquelle t'as pas beaucoup de gens qui sont sur, qui sont prêts à défendre ce type de position-là. Donc en 29, les gens ils sont assez régulièrement dans
très
un
polarisé.
Dans un camp ou dans un autre.
Hein, soit les réactionnaires partisans de l'art pur pour aller vite, ouais. soit les staliniens partisans de l'art engagé. Mmh. Et effectivement, ouais. Dublin, lui, il est ni dans un camp ni dans l'autre. Et c'est pas mal, parce qu'on n'est pas obligé de choisir entre les bouchers et les assassins. Mmh. Donc il y a quelque chose là-dedans. Et il dit, voilà, l'artiste est une personne vivante, il fait partie d'un état, d'un peuple, d'une classe. Il a le droit de revendiquer le sérieux de ses opinions, figurées dans les œuvres d'art, dotées du rayonnement spécifique de l'art, au même titre que les autres. L'art est sacré. Cela revient pratiquement à dire que l'artiste est un idiot et qu'on n'a qu'à le laisser tranquillement parler. On veut nous consentir la liberté de produire, mais la liberté qu'on a en vue, c'est celle du paragraphe 51. Donc allusion au paragraphe 51 du code pénal allemand, qui reconnaît l'irresponsabilité pénale du déficient mental. Donc pour lui, l'art libre, c'est un art qu'on va laisser aux idiots. Donc on va peut-être
faire une pause musicale, puis on reviendra après là-dessus.
Thank you.
soir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et peut-être dernière partie, on n'en sait rien. Voilà, vous venez d'entendre, alors ça c'était imprévu, ça fait partie, voilà, de shit happens, les merdes nous tombent sur la tête. Vous venez d'entendre un morceau de Sam Dournal, Juste Homme Bredal, L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est un morceau complètement inconnu de 1993 qui avait été fait par un de nos potes de l'époque avec qui on a traversé les années 90, l'adolescence et le mouvement punk comme on pouvait. Et ben il est mort hier sottement après avoir traversé différentes choses assez difficiles. Donc c'était voilà, son vrai nom c'était Nicolas. Et il avait du génie, mais il avait aussi pas mal de folie et ça l'a sans doute pas mal détruit. Les amis qui partent, c'est toujours chiant. Mais bon, vous avez pu entendre un de ces petits morceaux. Vous les trouverez aussi gratuitement si vous aimez ça sur le site Gourdelu. Et puis voilà. Bon, il avait fait des tas d'autres trucs. Jim.
Ouais, bah donc on est toujours en train de causer de ce livre-là d'Alfred Döblin, édité chez Agon cet hiver, qui s'appelle L'art n'est pas libre, il agit. Qui est donc un recueil de textes, d'articles, de conférences de Döblin, textes prononcés ou écrits entre 1913 et 1948. Alors on a essayé de voir un petit peu là dans le début de l'émission, bon, qui était Döblin, et puis la manière dont il se situait politiquement et dont il situait surtout la littérature en politique. On a vu qu'il était sur une espèce de porte un peu de corde raide, un petit peu qui est un peu tout à son honneur, puisque il refuse à la fois une conception de la littérature sacrée, désintéressée, purement formelle, éloignée de toutes les réalités sociales et politiques, qui est un petit peu la conception réac de l'époque, très en vogue. Et il refuse aussi parallèlement les conceptions de littérature partisane, comme celles qui sont développées autour de pas mal de romanciers et d'écrivains communistes à l'époque, hein, qui mettent la littérature un peu au service du parti. Alors peut-être pour cette dernière partie, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un petit peu deux mots sur sa conception de la littérature proprement dite pour le coup, parce que il défend des choses intéressantes, notamment sur l'importance de du récit épique. Il pense la littérature comme un récit épique et surtout la littérature comme un instrument de connaissance spécifique. Alors bon, c'est toujours c'est un espèce de serpent de mer, ça, des théories de la littérature, c'est-à-dire effectivement en quel sens on peut dire que le roman ou la littérature au sens large peut nous apporter une connaissance. Alors connaissance de quoi, comment, pourquoi le romancier serait capable de nous transmettre une connaissance sur les hommes, la société qui serait propre à la littérature, et donc pas de la science, pas des sciences sociales, pas des sciences humaines, mais autre chose. C'est un serpent de mer, faut le dire quand même, habituellement c'est quand même un argument souvent paresseux, c'est-à-dire que c'est très souvent asséné comme ça, sans qu'il y ait rien derrière. C'est-à-dire on dit, oui, il est évident que le romancier, voilà,
nous apporte une connaissance,
souvent qui est même d'ailleurs bien supérieure à celle des sciences sociales, puisque évidemment c'est quand même nettement plus chic de se référencer à la littérature.
Lui, il fait pas, il suit pas, il n'y a pas d'huile de coude dans les archives ou interviewer des gens qui parlent de leur vie, etc. Effectivement, le romancier. Alors ça, c'est aussi pour ça que Döblin m'a intéressé. Parce que pour le coup, là aussi, il a une conception qui, me semble-t-il, attaque de plein de fouet la conception de nos sacristains de la littérature qu'on peut trouver dans les pages littérature de nos quotidiens célèbres. Et mais pas que, vous avez aussi tout un tas de romans là-dessus, enfin pas de romans, non, d'essais mais écrits là-dessus. Alors, je pourrais citer Daniel Selnav, donc prof à l'université de lettres. Qui paraît-il est très sympathique au demeurant, hein, c'est pas le problème à la rigueur, mais qui nous parle justement d'une espèce de, comment dire, d'écrivain qui est capable d'accéder au cœur de l'être en une seule intuition et grâce à un style formidable. Et si on n'est pas, si on n'aime pas trop les bondieuseries, on n'aime pas les retrouver dans la littérature plus qu'ailleurs. Et enfin, moi c'est mon cas en tout cas. Et je vois pas pourquoi, justement, l'écrivain, par une espèce de grâce stylistique et non plus divine, arriverait à parvenir au cœur de la réalité sans l'avoir étudié auparavant, uniquement parce qu'il écrit bien. Ça me pose quelques soucis. D'ordre intellectuel, mais aussi des soucis d'ordre... d'ordre moral, presque. Parce que... et puis en plus, ça réveille aussi mon... mes pulsions anti-religieuses. pour le dire simplement, voilà. Je vois pas pourquoi il aurait une espèce de vision du cœur des choses d'un coup, comme ça, sans avoir étudié au préalable. Et donc, et je pense que ce serait à relier cette espèce de vision, justement, de cette espèce d'intuition de l'artiste qu'on a tendance à louer, comme ça, avec cette sacralisation.
Oui, c'est ça, en fait. L'artiste est un visionnaire, quoi. C'est l'idée d'un visionnaire.
Et mais qui, que, de ce fait, est intouchable.
Et intouchable, forcément, puisque toi, t'as pas vu, toi.
Donc, oui, bon. Voilà, toi, t'as pas vu, donc voilà. Tu peux pas dire.
Et aussi, alors, c'est un autre aspect, là, qui est dans le. Il y a un texte qui est important, hein, dans le. Qui est un peu central, c'est la construction de l'œuvre épique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, là, cette conception, l'importance du genre épique dans la littérature pour lui? Parce que c'est.
Alors, ça, je pourrais pas trop en dire. Là, je renvoie les. Parce que ça, c'est un des articles que j'ai pas eu le temps de lire à fond. Le truc, c'est que, là, si les auditeurs sont intéressés, qu'ils aillent le lire, parce que c'est chouette. Par contre, ce que je trouve plus intéressant, enfin, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a intéressé est plus, comment dire, de façon. Alors, épique chez lui, ça veut pas dire héroïque.
Non, c'est pas ça.
Ça, c'est le premier point. Ça veut dire narratif. C'est-à-dire, mais c'est quelque chose de narratif avec l'idée que un des soucis du roman, c'est la concurrence du reportage.
Ouais.
Donc, et de l'histoire.
Et du drame.
Et du drame. C'est-à-dire que l'épique a souvent tendance à retomber dans le dramatique. Ouais. C'est-à-dire dans quelque chose qui va être construit autour d'un personnage. Et d'une espèce d'intrigue rapide où tout va basculer à un moment. Et Dublin pense que c'est plus du tout une littérature adaptée au XXe siècle. Là-dessus, il rejoint complètement un auteur comme Mouzil qui se dit, voilà, aujourd'hui, il faut, comment comprendre l'individu dans une époque où finalement il n'y a plus que des masses. C'est l'époque du totalitarisme triomphant, il faut voir ça aussi, les années 20-30. Et ces gens-là qui ont quand même du pif, bah réfléchissent à ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'individu dans une époque où vous avez tout un tas de gens qui vous assènent que l'individu n'est rien et que le mouvement est tout? Et ça, alors ça, là, je viens de citer un slogan nazi,
dans sa version nazie, mais il y a aussi une réalité. Il y a une version communiste, et puis il y a aussi une espèce de dissolution, mais il y a aussi une réalité de la connaissance, de la technique aussi, qui fait, et puis voilà, du milieu en quelque sorte, voilà, scientifico-technique dans lequel vivent les individus modernes, qui font que tu peux pas simplement te contenter, voilà, de célébrer une petite intériorité contemplative, séparée effectivement de phénomènes sociaux. Tout simplement aussi, et il est sensible à ça aussi. Il y a un aspect dans le.
Mais en même temps, ça n'empêche pas d'abandonner le héros, et ça, je le trouve vachement intelligent là-dessus, parce que justement, finalement, il considère que l'individu n'a pas disparu, parce que ce serait trop facile. Au bout du compte, on est tous toujours des individus, et même si on n'est pas grand-chose dans ce monde-là, 1 sur 7 milliards, c'est peu, donc ça nous permet d'évaluer la valeur de la vie humaine, mais il n'empêche que ce point de vue-là reste. Et Dublin va le reprendre. En quelque sorte, de travailler de l'intérieur, montrer à quel point on est aussi travaillé par ces masses, à quel point nos opinions qu'on imagine personnelles nous sont mises dans le crâne par le monde ambiant, etc. Et à quel point finalement l'individu éclate là-dedans.
Il y a un aspect intéressant, c'est que du coup, pour saisir du coup l'individu dans ce contexte-là, c'est ça, il me semble, si j'ai bien compris, qui rattache à l'importance du genre épique, c'est l'importance au fond des types. Hein. Le genre épique, c'est aussi un genre qui va travailler. Les exemples qu'il donne, c'est la Divine Comédie, le Quichotte, etc. Don Quichotte. C'est-à-dire des types. Et il nous dit finalement, là, on a affaire, alors non pas à des individus particuliers, à une espèce de littérature psychologique ou introspective sur tel ou tel individu, mais on a un type humain, à la fois humain et social, et qui a été vu, commenté, analysé.
Là encore, il est assez proche de Mouzil, c'est-à-dire que voilà, la littérature, c'est pas du reportage, c'est-à-dire que c'est pas particulier. C'est pas comme le journaliste de TF1 vous la scène, je sais pas moi, Robert SDF, alors Robert, comment est-ce que vous en sortez? Mais c'est pas non plus du concept en philosophie. C'est quelque chose qui va être entre Robert et la philosophie.
Exactement.
Entre Robert et Platon. et donc, effectivement, l'auteur va dégager un type possible d'individu, particulier.
Est-ce qu'il intéresse
telle et telle caractéristique, et à partir de là, ce qui va faire que Dublin revendique la situation, la possession d'une science particulière, ou d'être que l'écrivain soit une espèce particulière de savant, c'est que il imagine finalement le roman comme une forme d'expérience de pensée.
C'est ça.
Où l'individu est placé dans une situation possible.
L'individu type.
Un individu type qui est placé dans une situation possible, voire très très probable. Par rapport à l'époque dans laquelle on est. Et il se dit, voilà, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait qu'en termes de conception littéraire, ça va aussi changer les choses. Dublin déteste l'idée de d'écrire son roman, enfin de rédiger le plan de son roman à l'avance. Il exige que l'auteur soit saisi par la matière de son roman. Et ça, je pense qu'il y a un côté expérimental derrière. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si je mets tel individu dans telle situation ? Ben, si je planifie tout, d'une certaine manière, je vais fausser l'expérience de pensée. Mmh. Il faut que je sois aussi pris par la situation elle-même que j'ai mise en place. Et donc, ne pas planifier nécessairement le roman, ne pas faire à la française.
Il faut qu'il y ait une découverte.
Il faut qu'il y ait une découverte, mmh. Voilà. Mmh. Alors après, évidemment, le souci, c'est que il manque un truc. C'est que bah, l'expérimentation en sens, de temps en temps, ou assez régulièrement, nous donne un résultat quand même.
Dans les sciences, oui. Ça
dans les sciences. C'est-à-dire que c'est vrai ou faux. Et c'est ça qui m'a marqué, parce que mon auteur de prédilection, là, Robert Musil, l'Autrichien, donc auteur du court roman facile à lire, L'homme sans qualité.
3000 pages, je rappelle. Il y a un article sur Musil, de Dublin sur Musil.
Oui, qui a été publié avant que Musil ait justement publié le court roman L'homme sans qualité. Mmh. 3000 pages. Donc, mais bon, je voudrais que les gens aillent le lire, donc il faut mieux prétendre que c'est court, tu comprends. Alors, arrête de scier mes effets, parce que sinon ça va pas marcher. Donc voilà.
Mais c'est extraordinaire, moi qui n'ai lu que 900 pages sur les 3000, j'ai pris un pied intégral, il faut le dire.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon Dublin, lui. José prétend qu'il l'a lu et qu'il ne sait pas lire. Les deux choses, à mon avis, sont fausses, en fait. Mais. Mais bon, ça, c'est... je laisserai José à ses divagations. Donc, Musil se posait exactement la même question. Et à savoir, comment est-ce qu'on pourrait transformer la littérature en une connaissance. Bon. Dublin la pose aussi. Les deux, d'une certaine manière, répondent plus ou moins de la même manière, au sens de imaginer les possibles. C'est-à-dire, voilà, on met tel personnage dans telle situation, qu'est-ce qui se produit ? Et est-ce que c'est vraisemblable ? Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur le monde actuel ? Alors ça, c'est une question
qui... espèce de connaissance par modèle, en fait.
C'est ça, une espèce de connaissance par modèle. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'au bout du compte, ce soit beau, bien plus éclairant que la connaissance par intuition. C'est ça qui me gêne. Parce que dans la mesure où il n'y a pas de... Comment dire ? Où la réalité dit pas non, à un moment ou à un autre, quelle est la différence ? Alors c'est une différence d'approche, certes, d'attitude qui est relativement sympathique. C'est-à-dire que eux essayent de formaliser cette idée de connaissance littéraire. Mais ensuite, y a un souci, c'est que si on se base, comment dire, si on part d'une base scientifique, il y a un moment ou un autre qu'il faut pouvoir distinguer le vrai du faux. Et je suis pas sûr qu'en littérature on ait les moyens de le faire. Alors, ça veut pas dire que ce soit, condamnable au demeurant.
Est-ce qu'il reconnaît lui-même? Parce qu'il dit qu'effectivement, lorsqu'il étudie un type dans telle ou telle situation, il dit qu'effectivement, on n'est pas dans un cadre, purement expérimental, au sens de la science expérimentale. Ouais. Parce que ce qui est précisément en question, c'est à la fois les contours du personnage typique en question, c'est-à-dire ce qu'il va faire, dans le détail, et puis la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, la littérature a ça de spécifique, c'est qu'elle construit, elle place d'une certaine manière un personnage typique dans une situation qui elle-même est définie en partie. Et puis après, effectivement, il y a une part d'inconnu. C'est-à-dire que la réaction de l'un sur l'autre n'est pas fixée à l'avance. Et c'est précisément l'enjeu de l'écriture et du récit. Quoi,
Dégager ce qui va se passer. Alors par exemple, il dit sur Berlin Alexanderplatz, il dit, voilà, j'ai voulu placer un homme bon dans le monde actuel. Alors Musil avait une phrase là-dessus, d'ailleurs c'est amusant parce que les questions se posent. Musil disait, voilà, un homme bon ne cherche pas à changer le monde, il s'en retire. Voilà. Dublin étudie comment l'homme bon va être ballotté dans le monde.
Sans savoir à l'avance, mais c'est aussi une forme de honnêteté intellectuelle, sans définir à l'avance ce que c'est qu'un homme bon. Est-ce que c'est qu'un homme bon dans le monde actuel ? Est-ce que c'est que le monde actuel ? C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça va se définir ensemble dans l'écriture.
Dans le processus de l'écriture. Et là, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une très grande honnêteté de la part de Dublin, au sens où il n'a pas de... Justement, il est très très méfiant à l'égard des romanciers qui vont tout décider à l'avance, a priori, à partir d'une doctrine anthropologique, sociologique. Pour eux, le problème est déjà réglé, d'une certaine manière. Et ils ne vont pas se heurter à la matière elle-même, et aussi à la réalité, parce que Dublin n'est pas du tout dans l'idée que le créateur crée aussi la réalité de son monde. C'est-à-dire que le créateur sérieux, même si c'est pas, même s'il a pas pris des tonnes de notes sur les faits du monde actuel, il s'est heurté à cette réalité. C'est-à-dire qu'il l'affronte. Et s'il est un tout petit peu sérieux aussi, en climat, il va pas écrire n'importe quoi. C'est-à-dire que, bah, il va prendre en compte les conditions du monde actuel, dans la mesure de ses moyens. Et justement, voir à quel point, bah, l'homme bon peut être écrasé par d'autres mondes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une honnêteté dans la démarche qui est assez intéressante.
C'est qu'il essaie de, si j'ai bien compris, il essaie de tenir en fait debout, alors qu'ils sont effectivement pas faciles à tenir. C'est-à-dire d'une part ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire le fait d'accepter de se heurter à la réalité. Alors, en même temps, il a des formules qui sont très très stimulantes. Là, il y a un moment, par exemple, il distingue ce que c'est qu'un écrivain d'un auteur. Il dit, en fait, le vrai auteur, en fait, il y a deux choses. Il est d'abord capable d'approcher la réalité dans ce qu'elle a de charnel, d'incarner, etc. Puis après, il faut qu'il soit capable de rentrer dedans d'une certaine manière, de la traverser, de la retourner d'une certaine manière. Et il dit, celui qui sait simplement l'approcher, c'est-à-dire la saisir par les mots, par l'écriture, ça, c'est un écrivain. Mais c'est pas encore un auteur. Et on a des écrivains qui sont capables effectivement de restituer ça, mais l'auteur c'est pas seulement ça, effectivement il y a peu d'auteurs.
Voilà. Dans le roman historique et nous, donc page 173, à partir du moment où le roman conquiert la fonction nouvelle de révélation et représentation spécifique de la réalité, on a quelques difficultés à qualifier l'auteur de poète ou de littérateur. Il est une espèce particulière de savant. Il est un alliage spécifique de psychologue, philosophe, observateur de la société. J'ajoute qu'en Allemagne, malheureusement, assez peu d'auteurs méritent le nom de savant. Ils préfèrent le plus souvent récupérer à bon compte les vieilles recettes, et un livre vit d'un autre livre, ce qu'on appelle vivre, et cela s'écrit dans une langue également traditionnelle, qui est, dans les parties soutenues, artificielle. Et je ne suis pas du tout prêt à accorder le nom de poète à quelqu'un pour la seule raison qu'il est étranger à la réalité. En dehors de l'observation et l'expérience personnelle de la réalité, c'est l'élaboration, l'imagination et l'authentique art du langage qui font le poète. Mais effectivement, il essaie de tenir les deux bouts.
Donc, c'est-à-dire à la fois être heurté à la réalité et en même temps
suffisamment éloigné
et du coup de libérer effectivement une création imaginaire, quoi, une espèce de modélisation imaginaire, parce qu'il y a
il est contre le réalisme, parce que pour lui le réalisme justement
et pure imitation. C'est ça. Donc ça c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il défend à la fois une prise en compte et un respect de la réalité d'une certaine manière. C'est vraiment ça qui fait la norme du travail de littéraire. Et en même temps, effectivement, il est très sensible aussi à la construction imaginaire. Alors, du coup, il y a forcément.
Ce qui fait que dans ces romans, vous avez des moments complètement surréalistes.
Ouais.
Mais je crois que les moments surréalistes, justement, obéissent pas au surréalisme à la française, au sens où, dans les passages que j'ai vus de novembre 18, il y a des passages délirants, purement délirants. Mais je crois qu'il veut faire aussi comprendre aussi l'atmosphère de cette époque. Et pour lui, faire comprendre l'atmosphère de cette époque, c'est aussi passer par ces moments de délire où la réalité bégaye, où l'État s'effondre, où il y a tout un tas de choses complètement inouïes et invraisemblables. Imaginez, voilà, vous sortez de 4 ans de guerre, vous êtes dans l'État de Bismarck, et puis tout se casse la gueule, il y a des comités de soldats un peu partout. Effectivement, c'est une ambiance surréelle. Et justement, pour en rendre compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut aussi saisir la réalité par l'imagination et essayer de rendre ce grand délire de l'histoire, je crois. J'imagine peut-être, là c'est mes extrapolations personnelles, à partir des souvenirs de la lecture de novembre 18, avec ces passages complètement fous, ou bon, je passe les détails, allez lire si ça vous intéresse, mais je crois que justement c'est ça qui le rend intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un qui pense que l'auteur doit s'affronter à la réalité, ne pas la copier servilement, mais justement pour mieux en rendre compte, puisque de son point de vue, l'art est une forme de connaissance qui va représenter, finalement, qui va essayer de nous donner à connaître un moment particulier, un type particulier, etc. etc. Et ben pour ça, il est obligé d'utiliser des moyens purement artistiques aussi. Voilà, donc on va arrêter là. Et on va vous repasser donc du Sam Bournal, Juste Homme Bredal. Donc c'était Nicolas, qui est mort hier, et qui était un pote. Voilà, même si on ne l'avait pas vu depuis longtemps, parce qu'il avait pris d'autres chemins. Voilà, c'est quel morceau, José ?
Danse érotique.
Danse érotique, voilà, de Sam Bournal, Juste Homme Bredal.
Salut. Yeah.
Thank you.